Ce matin, nous nous penchons sur le projet de notre Église. Pourquoi nous rassemblons-nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et pour réfléchir à cela avec vous, j'ai voulu prendre un texte très connu, un texte qu'on appelle la Grande Mission, et qui se trouve à la fin de l'Évangile de Matthieu. Donc, on peut regarder ensemble Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 16. Il est écrit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce texte nous relate une rencontre. Une rencontre entre Jésus et ses disciples, une rencontre qui a lieu après la mort et la résurrection de Jésus et avant son ascension. Ce sont donc parmi les dernières paroles de Jésus, là où il donne les consignes à ses disciples, à ceux qu'il laisse. L'évangile de Matthieu est assez sobre quant aux apparitions de Jésus après sa résurrection. En regardant dans les autres évangiles, on se rend compte qu'il y a comme ça plusieurs apparitions à différents endroits. C'est la seule que Matthieu choisit de nous rapporter en dehors de la rencontre juste à la sortie du tombeau. Cette rencontre, elle a lieu en Galilée. La Galilée, c'est au nord du pays d'Israël. Donc, après la mort de Jésus, quand même, les disciples, ils ont bougé parce que ça s'est passé à Jérusalem, au sud. Jésus les envoyait au nord pour les rencontrer et après, ils sont retournés à Jérusalem où l'ascension a eu lieu sur le mont des Oliviers. La Galilée, c'est donc une région au nord du pays, c'est le point de départ du ministère de Jésus. C'est là qu'il a commencé. C'est le lieu où il a recruté ses premiers disciples et où ils se sont mis en route ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'il va là. Et avec Jésus, là, on retrouve les onze disciples. Les onze disciples, c'est les 12 que Jésus a choisis, moins Judas, qui l'a trahi. Jésus leur apparaît. Qu'est-ce qu'on fait quand Jésus apparaît? Eh bien, les disciples, ils se prosternent et ils l'adorent. Ils ont une attitude de révérence où ils reconnaissent sa majesté, sa divinité. En fait, c'est ce que nous venons de faire à travers ce moment de louange où nous rassemblons. Jésus est présent au milieu de nous. À travers ce qu'a préparé Anne-Marie, nous nous sommes inclinés devant notre Seigneur. Nous avons proclamé qu'il règne. Nous avons reconnu que le plus grand bien que nous avons, c'est de le connaître. Les disciples ont dû aussi faire quelque chose ainsi. Et pourtant, il y a un grain de sable. Quelques-uns ont des doutes. Matthieu ne précise pas de quel doute il s'agit. Je ne pense pas qu'ils doutent que ce soit vraiment Jésus qui se tient devant eux, parce que ça, ils en ont déjà douté, on le voit dans d'autres évangiles, et Jésus les a rassurés là-dessus. Il les a rassurés que oui, c'était bien lui, il était bien ressuscité. Non, je crois qu'ils hésitent. Ils ne savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'ils font là, avec Jésus? Et c'est très intéressant de voir comment Jésus traite leurs doutes. Quelle est la réaction de Jésus face à ces doutes? Face à ces doutes, Jésus les envoie. Il les envoie en mission. Il les envoie dans le monde entier pour partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, pour faire des disciples. Et c'est comme un chef qu'il les envoie. Il leur dit, toute autorité m'a été donnée. Toute autorité. C'est plus que l'autorité d'un maître sur les disciples. C'est l'autorité divine. L'autorité sur la création, sur le ciel et sur la terre qui lui a été donnée. Du coup, les disciples, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais ça ne semble pas être un problème pour les disciples. Au contraire, ça calme leurs doutes. Voilà comment Jésus procède pour calmer leurs doutes. Il les envoie en mission. Il les envoie poursuivre la mission que lui-même avait commencée. Cette mission pour laquelle il les a formés. Celle de faire des disciples. Et à ce moment-là, je crois qu'ils le reconnaissent. C'est bien lui, c'est bien Jésus. S'il nous demande de faire des disciples, oui, c'est lui. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? D'après le dictionnaire, un disciple, c'est la personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, ou alors la personne qui adhère aux doctrines d'un maître. C'est assez juste dans ce que Jésus demande aux disciples. Jésus leur demande de répandre son enseignement, que de plus en plus de personnes aient la joie de connaître le royaume de Dieu. Mais alors, c'est bien, mais comment on fait? C'est quoi la recette pour faire des disciples? Il est intéressant de noter dans le texte grec, le texte original, qu'il y a quelque chose qui passe assez mal dans les traductions que nous avons. Dans la plupart de nos traductions, on a quatre impératifs. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Mais dans l'original, on a un seul impératif. Faites des disciples. Et le reste, ce sont des participes présents. Allant, baptisant, enseignant. Et ces parties présentes, c'est la recette pour faire des disciples. Tout d'abord, il faut aller. Les disciples ne se font pas tout seuls. Il faut aller les chercher. Jésus lui-même a choisi ses disciples et il les a appelés. Et là, il leur dit d'aller prendre des gens de toutes les nations. Ça fait large. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a aussi un récit où il les envoie, et Jésus leur dit d'aller à Jérusalem, en Judée et en Samarie, le pays dans lequel ils se trouvent, et jusqu'aux extrémités du monde. Voilà, Jésus leur dit d'aller partout, là où ils sont, dans leur pays, jusqu'au bout du monde. Auprès ou au loin. Il faut aller chercher les disciples. Ensuite, l'étape 2, c'est le baptême. Le baptême, c'est un geste qui montre la conversion, c'est-à-dire le désir de changer de vie, le désir de ne plus vivre selon ma volonté, selon ce que moi j'ai envie de faire, mais de suivre Jésus. C'est une décision, c'est une orientation de bonne volonté. C'est l'engagement du croyant de ne plus être un sympathisant, mais de dire oui. Oui, j'en suis. Oui, je veux suivre Jésus. Et ça implique qu'entre-temps, qu'entre le moment où on est allé les chercher et ce moment où on les baptise, ces personnes ont pu entendre qui était Jésus? quelle vie il proposait. Et ensuite, le troisième point, il faut enseigner. Avant d'en parler, j'aimerais quand même noter une chose. C'est que l'enseignement vient en troisième point et non pas en deuxième. Ce que demande Jésus, c'est pas d'enseigner jusqu'à ce que les personnes se fassent baptiser. Mais on baptise et les personnes qui veulent, on les enseigne. L'enseignement vient pour ceux qui veulent suivre Jésus. Cela nous attire notre attention sur deux choses. La première, c'est que une fois baptisé, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et la deuxième, c'est que ce qui décide au baptême, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une information qu'on apprend, mais c'est une décision de foi, celle de croire à la parole de Jésus, celle de ce qu'en mettant notre confiance en lui, cela suffit. Nos fautes sont effacées, nous sommes réconciliés avec Dieu. Enseignez donc, enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Cet enseignement, ce sont des commandements, c'est-à-dire une loi. Et si on devait résumer cette loi, Jésus l'a fait, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà le résumé de la loi de Jésus. Le commandement de Jésus, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est pas un sentiment flou. C'est pas mon feeling, c'est pas une excuse pour faire tout ce que je veux tant que je ne fais de mal à personne. L'amour, c'est une attitude exigeante. L'amour, c'est ce que Jésus est venu incarner, ce qu'il est venu vivre, le modèle qu'il a été. Celui dont il nous a laissé le mode d'emploi dans le Nouveau Testament. On comprend donc que ça prend un peu de temps et qu'il va falloir continuer l'enseignement après le baptême. Et surtout, cet enseignement, eh bien, il doit être gardé. Enseignez à garder ce que je vous ai commandé. Garder, c'est-à-dire mis en pratique, vécu. Et ça, ce n'est pas nouveau. Les lecteurs de l'évangile de Matthieu se souviennent que c'est déjà la conclusion du sermon sur la montagne. Avec les deux maisons, celle sur le sable, celle sur le roc, celle du sage qui est sur le roc, c'est celui qui écoute et qui met en pratique, contrairement au fou qui écoute mais ne met pas en pratique. Voilà ce que c'est qu'un disciple. C'est quelqu'un qu'on est allé chercher, qu'on a accompagné, qu'on a encouragé à s'engager, qu'on a enseigné. Ou alors, si on change de point de vue, c'est quelqu'un qui est venu, qui a persévéré, qui s'est engagé et qui a appris. Mais dans les deux cas, ce processus se fait jusqu'à ce qu'il devienne un disciple, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des disciples. Quand j'étais enfant, nos parents nous emmenaient parfois en pique-nique et c'était un événement très attendu. Et parmi les incontournables du pique-nique, parmi ce qu'on avait, il y avait toujours un paquet de chips. Et sur le paquet de chips que maman achetait, il y avait quelque chose de fascinant. Sur ce paquet de chips rouges, il y avait une dame qui mangeait un paquet de chips rouges, sur lequel il y avait une dame qui mangeait un paquet de chips rouges, etc., etc. Et j'avais beau regarder le plus attentivement possible, il y avait toujours une dame dans un paquet, le plus profondément. C'était fascinant. C'est la même chose que Jésus demande de faire des disciples, qui font des disciples, qui feront des disciples, qui feront à leur tour des disciples. J'ai entendu ce calcul. Imaginez un très très bon évangéliste. Très bon évangéliste qui fait 1000 conversions par jour. En 30 ans de carrière, il aura atteint ainsi 11 millions de personnes. Pour atteindre la terre entière, il lui faut, si je me souviens bien, presque 280 ans, 278,9 je crois. Prenez un évangéliste qui évangélise une personne et qui voit sa conversion pendant l'année. Ces deux-là, ensuite, font la même chose avec une personne pour toucher la terre entière. Il leur faut 33 ans. Pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y a pas d'autre solution que de faire des disciples qui font des disciples. Cette mission, c'est une grande responsabilité, mais Jésus les rassure. Et c'est le dernier verset, la dernière phrase de l'évangile de Matthieu. Il est lui-même avec eux. Il les accompagne. Il les assiste. Et là, s'ils avaient des doutes, les disciples reconnaissent Jésus. Jésus qui veut toujours répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, sa seule préoccupation. Celui qui leur fait confiance, qui les envoie et qui les accompagne. Et cette mission, eh bien, c'est la nôtre aussi. Parce que si le but, c'est de faire des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, eh bien, nous aussi, nous sommes en bout de chaîne de ces disciples qui devons faire des disciples. Mais concrètement, comment le vivre aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait des disciples aujourd'hui? Jésus a choisi 12 gars. Il les a pris avec lui. Ils vivaient toujours ensemble. Il les a formés à fond pendant 3 ans. Et il les a envoyés. Mais en lisant le Nouveau Testament, on voit qu'à côté d'investissements individuels, Paul aussi avec Timothée a une relation vraiment de un à un pour le stimuler, on voit aussi des églises qui se mettent en place et qui se structurent autour de ministères. Jésus laisse une grande liberté dans l'organisation de la mission. Comment pouvons-nous nous organiser pour répondre à cette mission? Je crois que, comme nous l'avons vu dans le texte, comme nous l'avons mis en évidence dans le texte, il faut procéder par étapes. Et notre premier travail, eh bien, c'est d'aller chercher les nouveaux disciples. À nous d'inviter des personnes, des amis, de leur parler de ce que nous vivons, d'éveiller leur curiosité. Et en même temps, eh bien, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu pour mettre dans leur cœur l'envie de venir, l'envie d'en savoir plus. Et alors, nous verrons des personnes qui viennent par curiosité, parce qu'ils veulent découvrir une communauté, parce qu'ils veulent entendre parler de Dieu. Et alors, nous verrons des visiteurs qui gravitent autour de la communauté. Ensuite, notre travail, eh bien, c'est d'accueillir ces personnes. Faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise ici, parmi nous, qu'elles aient envie de revenir. C'est l'occasion de montrer concrètement l'amour de Dieu en leur faisant une place, en construisant des liens d'amitié. En même temps, faisons confiance à Dieu pour les toucher pendant nos cultes, pour qu'elles perçoivent et se nourrissent de sa présence, pour qu'il suscite en elles la faim d'en savoir toujours plus. Alors, ces personnes vont prendre goût à nos cultes, elles vont revenir, elles vont devenir régulières, se sentir à l'aise. Et alors, nous verrons des réguliers s'intégrer à la foule. Alors, notre travail est de présenter le message de l'Évangile. La bonne nouvelle que nos fautes peuvent être pardonnées, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Il faut annoncer la réconciliation entre Dieu et nous, de ce que nous pouvons vivre en communion avec lui, en harmonie avec lui au milieu de sa création, dans la paix, malgré les circonstances. Dire que Dieu les attend dans son Église. Et faisons confiance à Dieu pour attester dans le cœur de ceux qui écoutent que c'est la vérité. Pour amener ces personnes à prendre cette décision, à se convertir, à choisir de vivre à la suite de Jésus et le reconnaître comme leur maître. Et ensuite, qu'il les ajoute à son Église. Alors, ces personnes se convertiront, elles choisiront de commencer une nouvelle vie à la suite de Jésus. Elles se feront baptiser comme signe de ce choix. Elles s'inscriront dans le projet de l'Église. Nous verrons alors des membres s'ajouter à l'Assemblée. Et si vous avez suivi la lecture de Matthieu, notre travail ne s'arrête pas là. Ensuite, notre tâche, c'est d'enseigner, d'expliquer ce qu'est la vie d'un disciple, d'expliquer la profondeur des commandements de Jésus, de donner tous les éléments pour vivre sa foi au XXIe siècle. Et alors, faisons confiance à Dieu pour faire le travail de sanctification, de transformation, pour rendre conforme à ce qu'il attend, pour montrer aux personnes ce qu'il attend d'elles. Et ces personnes vont alors découvrir ce que Dieu attend d'elles et progresser tous les jours avec lui vers la maturité spirituelle. Elles vont découvrir leurs dons et les mettre en pratique. Nous verrons alors des membres engagés rejoindre l'équipe. Alors, notre travail, c'est de permettre au ministère de s'exercer, de les reconnaître, de leur donner le moyen de s'exprimer, de donner des responsabilités à ceux qui souhaitent s'engager pour le royaume de Dieu. Et faisons confiance à Dieu, lui qui équipe, qui constitue le corps qu'est l'Église, qui fait en sorte que rien ne manque, qui la développe. Alors ces personnes seront pleinement moteurs de l'Église, sont des maillons essentiels de son témoignage, de sa mission de faire des disciples. Et nous verrons alors des serviteurs se joindre au noyau. Voilà, c'est le projet que nous voulons avoir pour notre Église, celui d'inviter des personnes à l'extérieur de l'Église et de les amener à travers toutes les étapes pour en faire des serviteurs, autrement dit, des disciples qui font des disciples. C'est ce que nous voulons vivre en Église. Alors, peut-être vous dites que c'est déjà ce qu'on vit. Ou alors, au contraire, vous vous dites que c'est pas du tout ce qu'on vit, qu'on en est très loin. En fait, je crois que c'est un peu des deux. Nous le vivons. Nous voulons être fidèles à la parole de Dieu et tout ça, ça ne tombe pas comme ça de nulle part. On le trouve déjà dans la parole de Dieu. Nous le vivons, mais nous le vivons de manière parfois désordonnée, parfois pas consciemment. On commet des maladresses, Nous sommes des disciples, nous sommes encore en apprentissage. Mais nous voulons le vivre de manière consciente, de manière programmée, avec l'aide de Dieu. Nous voulons avoir toujours cette flèche qui part de l'extérieur vers l'intérieur, nous voulons l'avoir toujours en tête. Et que chacune de nos actions, que chacune des actions que met en place cette Église serve à amener plus près du centre, le centre qui est Jésus. Peut-être qu'à la vue de ces cercles, vous vous demandez, et moi, où est-ce que je me situe, moi? C'est une question intéressante à se poser. Peut-être n'êtes-vous pas engagé envers Dieu, peut-être que vous venez pour voir, par curiosité, peut-être que vous venez régulièrement, que vous commencez à vous sentir à l'aise. Soyez les bienvenus. Nous voulons être là pour vous permettre de découvrir Dieu et ce qu'il veut pour vous. Peut-être que vous êtes membre de cette Église et que vous vous demandez dans quel cercle vous êtes, que vous vous demandez si vous êtes un bon membre. Ne vous en faites pas. On n'est pas là pour distribuer des bons points. Posez-vous plutôt la question: où est-ce que vous voulez être? Et nous vous accompagnerons pour vous y rendre. Puis peut-être que vous êtes chrétien, que vous hésitez à devenir membre, à vous engager envers cette Église. Peut-être que vous la regardez de loin, vous demandant si vous voulez y participer. Peut-être que vous êtes déjà membre, vous avez l'impression d'être un peu à côté. Qu'une seule chose à vous dire, si vous voulez participer à ce projet, venez. C'est le projet de cette Église, c'est d'accompagner ceux qui cherchent Dieu, depuis l'extérieur jusqu'au centre, jusqu'à l'engagement. En d'autres termes, faire des disciples qui font des disciples. Amen.